le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Alexandra Ben Saïd des médecins urgentistes, c'est un ancien de Charlie Hebdo. Il publie L'instinct de vie.
Patrick Peloux, bonjour.
Bonjour.
On va d'abord parler d'un autre texte, si vous voulez bien. La lettre aux escrocs de l'islamophobie, un texte posthume de votre grand ami, Charb, le rédacteur en chef de Charlie. C'est aussi un spectacle et ce spectacle, est là, il vient d'être déprogrammé à Lille. Il vient d'être refusé au Festival d'Avignon. Vous l'avez vu?
Moi, je l'ai vu, c'est un bon spectacle. Et puis, c'est un texte qui est une bonne réflexion. Il avait écrit ça quasiment d'un trait. Et c'est un texte qui apporte une bonne analyse par rapport au radicalisme islamique, mais en plus généralement contre le radicalisme religieux. C'est un texte qu'il faut analyser et qu'il faut dire. Maintenant, si certains jugent que le spectacle est pas bon, c'est leur analyse, mais il faut pas le censurer. Et moi, je rejoins ce que dit si souvent Elisabeth Badinter, l'islamophobie n'existe pas. On peut pas nous critiquer d'islamophobe quand on remet en cause le radicalisme islamique.
Mais 2 ans plus tard, il y a des mots qui dérangent encore, les mots de Charb dérangent encore, et on n'a pas apuré ce débat.
Non, on le fuit, parce que ça fait peur. Ça fait peur, et de toute façon, il y a qu'à voir, dès que vous parlez des attentats, on évite certains mots, ça fait peur.
Ce que vous
ça
dites, c'est que critiquer l'islam, c'est déjà une forme de déradicalisation.
Oui, parce que c'est critiquable mais comme toute religion est critiquable, hein, quand vous analysez certains passages de la Bible où il faut tuer tout le monde aussi, c'est critiquable. Il faut pouvoir critiquer les religions, c'est le principe même, et c'est ce qui a fait naître la loi 1905 et la laïcité. Si on ne s'était pas mis à critiquer les religions, la médecine n'en serait peut-être pas là où elle en est actuellement.
Alors Patrick Peloux, vous publiez aujourd'hui ce livre, L'instinct de vie. C'est un texte très intime, poignant. Le 7 janvier 2015, vous auriez dû être à la conférence de rédaction de Charlie.
Ouais.
Vous n'y étiez pas. Vous n'avez pas été tué. Vous êtes vivant. Et pourtant vous écrivez « Je suis une victime ».
Oui, mais comme beaucoup, comme toutes les victimes d'attentats, j'ai voulu faire ce livre parce que justement, depuis 2 ans, il a fallu se reconstruire, faire son deuil de tous ses amis qui nous manque, et puis vivre ce psychotraumatisme qui a été important et qui a été un peu redondant, parce que qui s'est reproduit avec les attentats du 13 novembre, avec l'attentat de Nice du 14 juillet, et puis tous ces tentatives d'attentats qui ont marqué la population.
Ce qu'on apprend d'abord dans votre livre, c'est qu'un traumatisme, c'est une blessure physique au cerveau.
Voilà, c'est ce que j'ai voulu démontrer au cours de l'histoire de la médecine et de la psychiatrie. Les premiers qui sont intéressés au psychotraumatisme ont été les militaires. Hein. Les premiers, ça a été les médecins militaires des armées napoléoniennes, où ils appelaient ça le vent du boulet, où ils pensaient que c'était des petites lésions au niveau cérébral. Bon, après, vous avez eu, pour faire court, les théories des médecins militaires de la guerre de 14 qui pensaient que les psychotraumatisés simulaient pour pas aller au front, donc ils les électrocutaient. C'était une façon de torture, en gros. Et donc, ça a progressé. C'est surtout les idées freudiennes et Freud qui a largement inspiré la notion du psychotraumatisme. Et ces analyses-là, maintenant, on les porte, et grâce aux avancées, notamment à la résonance magnétique, à l'imagerie, on voit bien que lorsqu'il y a un traumatisme, vous avez des lésions vraiment comme une fracture osseuse. Enfin, avez des lésions cérébrales.
Des lésions cérébrales. Ça veut dire qu'on va pouvoir les guérir, ces lésions. Est-ce qu'on guérit jamais d'un traumatisme?
Si. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour une bouffée d'optimisme. On n'oublie jamais un traumatisme. Faut vivre avec.
C'est-à-dire que votre sommeil, votre vie est encore impactée par des images, des odeurs, des sons.
Oui, c'est ça.
2 ans plus tard.
C'est ça. Et puis vous avez la mémoire traumatique qui peut être activée. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention par des images, par des bruits, etc.
Et qu'est-ce que ça peut faire si c'est activé?
Ben, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez vous remettre dans un état de sidération. On l'a vu au moment de la réouverture du Bataclan, quand on a aidé les victimes à retourner dans le lieu de la salle de spectacle avec la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris. On a vu justement des personnes qui, par le lieu ou par des bruits, se retrouvaient totalement pétrifiées.
Et, des gens qui l'avaient vécu, des parents,
vécu,
des amis
vécu.
Des...
les parents, les accompagnants, c'était une autre forme de sidération, mais tout autant, mais pas de même ampleur. C'était des parents qui avaient besoin de faire un rituel de deuil et qui venaient pour voir exactement l'emplacement là où la personne avait été tuée.
Ça veut dire que ces lieux-là, il ne faut pas les lieux de tuerie, il ne faut pas les sanctuariser.
Faut revivre avec. Vous savez, c'est là où la culture et notre volonté collective, hein, collective du pays a été de continuer. Et il faut continuer. C'est-à-dire, faut pas se laisser faire par le terrorisme qui a essayé de casser nos habitudes, notre civilisation, qui a essayé de monter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Et on a continué. Et donc, il fallait rouvrir le Bataclan, il fallait rouvrir tous les cafés, il fallait continuer. Il faut continuer Charlie Hebdo. Il faut continuer. Il faut continuer. Sans oublier, ce n'est pas à continuer les choses et refaire des spectacles au Bataclan, c'est pas oublier qu'il y a eu une tuerie à l'intérieur.
Donc on peut devenir, on peut renaître, on peut... Oui. Vous n'aimez pas le terme de résilience, hein, ça ne vous va pas.
On revient pas, il a été emprunté à la physique et à la mécanique, on revient pas à l'état antérieur. Et il y a quelque chose... Qui est gênant, c'est que ça fait un peu fi du fait qu'on ne peut jamais oublier et que en fait on doit renaître en ayant le fait que justement on doit vivre avec ses souvenirs. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre pour expliquer aux gens qu'il faut avoir une volonté et conduire cette reconstruction, notamment en ayant des moments de plénitude qui permettent d'oublier. Notamment, je suggère aux gens de faire, par exemple, du yoga et d'essayer la méditation qui leur permet d'oublier leur tourment.
Et de se faire beaucoup accompagner. Patrick Pelous, une dernière question. Oui. Vous écrivez dans votre livre, nous n'étions pas prêts à ces situations de guerre. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, nous sommes prêts? Et quand je dis nous, en fait, vous, les ouais. services de secours.
Les services de secours, les pompiers, les SAMU, on a énormément travaillé avec l'aide des services de santé des armées. Il y a des entraînements qui sont quasiment mensuels maintenant, donc c'est prêt. Il y a un truc qui va pas et qui a été dit dans le rapport Fenech et Pietrasanta de l'Assemblée nationale, c'est le lien avec les forces de l'ordre.
C'est-à-dire la collaboration?
La collaboration avec la police, il y a des débats... La guerre des polices n'est pas entendable dans la gestion d'un attentat. Ils se tirent la bourre sur le terrain, c'est pas possible. Je le dis parce que je le vois. Et il faut une meilleure collaboration. Je crois que la modernité de l'intervention, un peu sur le modèle de ce qu'il y a en Israël ou dans d'autres pays, c'est la coopération entre les systèmes de services publics.
Le docteur Patrick Pelous. Son livre s'appelle L'instinct de vie, c'est publié au Cherche Midi. Merci d'avoir été sur
Merci.
France Inter.
Merci Alexandra Ben Saïd.